avant de connaître Michel, je vais quand même rappeler quelques éléments. Michel, vous avez mené une carrière de professeur de mathématiques. Paradoxalement, vous aviez choisi les mathématiques pour ne pas enseigner le français, puisque cet enseignement du français ne correspondait pas, tel qu'il est fait en France, à la manière dont vous le conceviez. Vos premiers poèmes remontent à 1960, après la découverte du poème « Soleil couchant » de Verlaine, qui a été un déclencheur, un véritable détonateur. Vous êtes poète, mais vous êtes aussi essayiste, et en cela vous avez collaboré à de nombreuses revues. En particulier, vous avez été pendant 21 ans, de 1980 à 2001, membre de comité de rédaction de la revue Phréatique. Et bien sûr, avec Colette, que vous connaissez ainsi très bien. Et vous reconnaissez combien fut déterminant ce travail de groupe qui a ouvert pour vous un champ très varié de recherche. Je voudrais aussi mentionner l'importance de la musique, puisque vous m'avez dit avoir été passionné de musique avant même de l'être de poésie. Et d'ailleurs, votre frère Jacques est un compositeur.
Mon frère aîné l'était aussi.
Et votre frère aîné l'était également.
Merci.
Moi, je connais Jacques, que j'apprécie. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre vie, et surtout sur votre rapport à la littérature et à la création, je conseille le journal de Traverse, qui est paru aux éditions Raphaël de Surtis il y a quelques années, et où vous évoquez notamment l'importance du surréalisme pour vous, la découverte du surréalisme et l'importance qu'il a eu dans votre écriture.
Je pourrais ajouter antérieurement le livre qui s'intitule « Le réel, j'imagine », qui a été publié à l'Harmattan en 2004.
Voilà. Bien. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de ce qui est le noyau de votre œuvre, ce que vous appelez le cycle d'Ophélie. Et je vais vous laisser en parler. Et avant, je voudrais présenter trop brièvement François Veillant, dont vous allez le flûtiste, qui est flûtiste, concertiste, et qui va interpréter pour nous des morceaux de musique contemporaine. Alors François, vous vous intéressez beaucoup à la création musicale contemporaine et j'ai vu que vous étiez auteur de plusieurs ouvrages sur la musique contemporaine. Vous enseignez la musique au conservatoire et en masterclass. Vous êtes aussi poète. Hein, et d'où votre goût de mêler sans doute musique et poésie. Je crois que vous avez mis en musique des poèmes de Mallarmé, notamment. Voilà. Voilà. Et à ce propos, je voudrais aussi, puisque les morceaux que François Veillant va jouer pour nous, en les tissant avec les poèmes à Ophélie, ces morceaux ne sont pas encore tombés dans le domaine public. Eh bien, la SACEM réclame une contribution forfaitaire. Et je vous serais reconnaissante pour ceux qui veulent bien, eh bien, de mettre quelques euros dans le chapeau que nous ferons passer ensuite. Voilà, merci d'avance. Et maintenant, je passe la parole à Michel.
Merci à tous, amis d'Aliénor, pour cette séance. Et je suis doublement ému en fait d'être devant vous parce que je pense à la séance qui avait été consacrée au prix Aliénor attribué à Lontana Insono il y a 10 ans. Et ce prix était donc pour un livre, il est d'ailleurs, je crois qu'il y a un exemplaire qui est ici, L'Antonin Sono sont trois mots empruntés à Pétrarque, lointaine dans le sommeil, a été écrit après la mort de ma mère en 2008, et les poèmes ont été écrits dans les années qui suivaient. C'était un travail assez long, d'autant plus que les circonstances étaient difficiles. Je devais m'occuper de mon père, etc. Et donc, il s'agissait en fait d'un recueil dont le format était très modeste, puisqu'il n'y avait qu'une douzaine de poèmes, mais donc tous consacrés à évoquer la figure de ma mère. Et je me trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement différente pour vous présenter le cycle d'Ophélie, parce que là, il y a un très grand nombre de poèmes. Alors, je précise tout de suite une chose. Il ne s'agit pas du tout d'un commentaire autour de Shakespeare. Le nom d'Ophélie a été en fait choisi, c'est une substitution au prénom réel de Florence. Florence, dont j'ai fait la connaissance à l'automne 1960, quand je suis entré avec elle à la faculté des sciences Jussieu. Voilà, et nous avons suivi ensemble les études jusqu'en 1965. Et eh bien, si vous observez les différents livres que j'ai publiés, vous verrez que la dédicace à Florence est presque générale. Je n'ai réservé de publier d'autres livres à d'autres destinataires que pour ceux, mes proches, qui ont disparu au début du XXIe siècle. Voilà, donc c'est un ensemble de poèmes très vaste. Ceux qui se rapportent donc à Florence, Ophélie. Et j'ai voulu donc me concentrer peut-être davantage à partir de l'an 2000. Curieusement, c'est au début de ce siècle que ça a débuté, avec les lettres à Ophélie. Alors, ces lettres à Ophélie sont des poèmes en prose qui prennent la forme d'une lettre. Voilà, donc c'est en particulier en passant à ce mode d'écriture, l'écriture en prose de façon générale et l'écriture du type correspondance, que j'ai entrepris cet ensemble de textes qui se trouve en quelque sorte un peu au début du cycle d'Ophélie. Sans compter bien sûr tous les poèmes antérieurs inspirés par également Ophélie, que j'ai ensuite quelquefois repris, cité dans, notamment dans le Florilège pour Ophélie. Alors je vais vous lire d'abord la lettre préface des lettres à Ophélie. Après tant d'années partagées entre silence et solitude, je vous écris enfin, Ophélie. Mes lettres, vous le savez, sont parfois très espacées. Elles n'appellent pas de réponse. Elles se lisent comme le journal d'une vie qu'on dirait imaginaire et qui m'appartiendrait à peine. Chacune est aussi un poème. Et tout le désespoir s'ouvre entre les mots. C'est un message que l'on confie, glissé dans une bouteille, au flot du temps. Mais le temps n'a guère de prise sur nous, dans la transparence où nous vivons l'un comme l'autre. Je vous écris entre deux eaux, dans l'opacité où la lumière pour éprouver à la pointe de l'instant l'inquiétude de ce qui sera. Je tais mes jours coagulés, les mauvais coups de nuit qui se consument. Tant de mots bouillonnent encore, jusqu'en d'ultimes eaux dormantes. Que ma lettre devienne poème et réciproquement, la ferveur de l'encre n'en sera pas moindre. Quand la rive s'éloigne, je m'abandonne au poids de la mémoire. Je dérive parmi les algues et l'angoisse. Je relève lentement mon filet d'images. En un éclair, c'est votre regard retrouvé. Mais il y a toujours, derrière nous, devant nous, une ombre. L'ombre même, la dévoreuse. Quand elle viendra me dérober la dernière lueur, je découvrirai qu'elle est à vos yeux. Ainsi le voulait le poète. Pour l'heure, je vous écris, Ophélie, au fil de mes absences, au gré de chemins, de chansons, de traverses, et j'inscris dans les marges ce qui demeure, ce qui brûle, ce qui passe, l'aujourd'hui, l'inextinguible. Depuis que vous avez quitté cette rive, les jours s'en vont par lambeaux, les nuits se glissent dans le moindre intervalle de cendre et de blancheur. Un fil d'écriture, torsadé comme le désir, me relie seul à ce qui, hors de brume sans miroir, peut tenir lieu de seuil ou d'estuaire. Si les mots, longtemps mal apprivoisés, ont connu dans ma parole rare et greffue, mieux la pierre sèche que l'image trop buissonneuse, les voici aujourd'hui grevés d'un manque à dire qui les agrège au plus dur du silence. Folie à trancher dans le vif, psaume d'absence pour lacérer la peau du visible, et c'est encore vous fuir, mutine sous un autre regard, c'est pressentir tout l'envers de ce visage défait. Devant la rivière perdue, autant de déchirures que de chemins sous les nuages. Vous étiez près d'une lampe bien fendue, l'auréole tiède qui me faisait palper le sable, même sous les voyelles, et connaître de toute sa langue l'eau la plus secrète. Sinon le poème qu'on écorche avec sa braise et ses racines, rien ne pouvait plus retenir ce peu de clarté qui ruisselait chaque matin à la surface des choses. Ce poème est donc la première des lettres à Ophélie, puisque la lettre préface est écrite quand le cycle était déjà sur sa fin. Alors, les autres lettres peuvent prendre des aspects très divers. Voici la 11e lettre. J'ai rouvert de vieux cahiers. Veilleuse du vélin et de l'ombre, une voix encore y tresse son feu désorienté, que quelques mots mal couchés sous le temps alimente d'une graphie d'épave. À peine si on perçoit d'entre les pages où l'encre a reflué vers sa pointe cette mélodie que nos doigts entremêlaient à la rive. Tant s'est évaporée notre ancienne liturgie de caresses, marées et murmures, que l'eau vive au creux du lit se livre désormais à l'œuvre du silence. Souvenez-vous du donjon magnétique, du miroir qui épouse. Une fenêtre pouvait transpercer soudain l'épaisseur de notre être, cribler dans ses strophes le songe le plus obscur, jusqu'à émonder de ses frayeurs notre récitatif à l'abandon. Sommeil et broussailles lançaient au fond de nos nuits mêmes racines, vivaient d'une même inquiétante déclivité. Je lisais derrière ce bleu humide, au point focal de l'âme, un peu de votre enfance. Vous tourniez le front contre l'épaule, des heures effervescentes. Le regard durait de toute sa rivière éperdue. Un sourcil juste éclos pour ovaliser la flamme. L'alphabet a foré en secret au vif du poème trigone de blondeur, et le château s'ajourait, devenait fibre, résille et fournaise. L'œil dérivait. D'un matin à l'autre, bruissait au seuil l'infini, avant que vienne la lumière se blottir entre mes bras. Notre mémoire débordait de promesses. De ces cahiers, je feuillette aujourd'hui la matière devenue impalpable. Ligne torse, grimoire et folie, nuages brûlés. Et je relis cette lettre comme si votre main allait y inscrire quelques chiffres d'éveil. François Blavin doit nous lire une autre pièce des Lettres infinies. Ce soir. Page.
C'est dans Fragment Nocturne.
Non.
D'accord. Ce soir, il dort du sang. Ce soir, il dort du sang. La forêt, ombre basse, est tombée en poussière. Du noir vient chuchoter au bord de la fenêtre. L'écorce crépite sous les nuages. Je respire avec votre sommeil, au loin. Contre le mur, un rien de lumière s'effeuille encore. Je remue lentement les mots, ravive la langue à l'intérieur. Le froid monte sous la lampe. Je vous veille, Ophélie, de tous mes silences. Gorgée d'angoisse, ma chambre, et qui tourne comme murmure filé au rebours des heures, son rouet d'insomnie. Ces phrases gauches que vous effarouchiez, les yeux clos, les voici qui se posent avec douceur sur vos mains fraîches, sur vos paupières. Onde inquiète, tout un poème effervescent nous écoute. Tel, à travers tant de miroirs éteints, le double motet de nos rites à fleurs d'eau, de folie frayée sous l'éclair, à mi-voix, chanson d'aube. Je vous écris, je vous devine.
Alors voici maintenant un poème plus récent, et qui se rattache au cycle par sa forme. Figure d'aphasie, syntaxe échevelée, nous voyait dans une ombre où, gommée, nous perdions, outre l'influx des mots, le restuaire, intuition radieuse de dire ou d'être une encre emmêlée, entre hasard diffus et lumière éboulée. Nous brûlions, nerfs induits, d'absence, et refusions cet aval de blancheur, neige au loin, tout brouillon essarté par nos nuits, paroles morcelées. Moins d'aube, nul regain, mais un gel antérieur, insinuante mort vers la flamme et l'ailleurs, chaque syllabe ourlait de son sang notre errance. Or l'angoisse sèche, nos sommeils sans essor, embuait la langue trop magnétique et dense, l'absolu, l'écorché, corrosion de nos corps. Voilà, ce poème de 1997, qui est donc ancien en quelque sorte dans la série des poèmes de Ophélie du XXe siècle, une particularité dans ce que je peux dire mon œuvre, c'est que c'est le seul exemple d'un poème régulier, classique. C'est tout simplement un sonnet en alexandrin, et il est né en fait des riches discussions que nous avions à la revue phréatique, où quelques amis vantaient couramment justement ces productions, souvent un peu néo-classiques, néo-baroques, tout ce que vous voulez, que certains poètes pratiquent. Alors j'ai voulu en somme leur dire, vous allez voir ce que vous allez voir, et je vais m'y mettre aussi. Alors c'est un sonnet qui a quelque chose de mallarméen, oui, parce que je pensais justement que Mallarmé poussait les choses au mieux, au plus haut dans ce domaine, et que précisément il avait donné le signe d'un renouvellement nécessaire. Alors voilà, c'est un poème assez unique dans son genre, qui est certainement marqué à la fois par Mallarmé, mais aussi probablement par René Char, qui m'a toujours beaucoup inspiré. Voilà, donc ce poème un peu à part. Et j'ajoute une chose aussi significative par rapport au thème, c'est que c'est un poème en acrostiche. Les deux quatrains sont liés aux 8 lettres de Florence. Pour Ophélie, ça ne marcherait pas. Et les 6 dernières pour mon propre prénom. Voilà. C'est un jeu d'ailleurs auquel je me suis livré très souvent, même dans les textes en prose, de faire des poèmes en prose en acrostiche, c'est-à-dire si on garde les mêmes 8 lettres, eh bien 8 phrases qui débutent chacune par la fameuse lettre correspondante. Voilà.
Michel. Je joue avec Michel là.
Exactement. L'écriture des lettres à Ophélie, j'ai longtemps hésité à prolonger l'expérience, à réécrire de nouveau des poèmes en forme de lettres. Donc il y a eu plusieurs années un peu d'hésitation. Et puis j'ai repris, en fait, je craignais évidemment des répétitions, je craignais de m'enliser un peu dans des formules. Mais j'ai réussi à reprendre les choses avec le cycle qui s'appelle Lettres d'Elseneur, dont voici le premier poème. Le temps s'était épaissi, comme pierrail, magma, grenaille d'instant. Dans la lenteur, dans une écoute au fil de l'eau qui s'infiltrait en nous, nuit après nuit, se creusait au plus profond nos sommeils brûlés. Comment aurais-je pu, si proche d'un océan perdu, recueillir encore quelques bribes de notre poème consumé, arracher à l'ombre écumeuse ses derniers éclats, étonné peut-être d'éveiller sous une vague échevelée tel regard en attente. Le château prenait sang, s'ouvrait sur toute sa lisse, le vent y soulevait ses voix lacérées par une même assomption noire des vocables. Onde à l'infini, vous deveniez lampe au-delà. Revenez, ma lumineuse, à ma nuit. Un autre poème du même cycle, La musique nous aimantait.
La musique nous aimantait, vive ou intérieure. Plus lointaine que ce cœur psalmodiant sous l'orage, la rumeur s'élevait avec lenteur. Un orchestre jaillit d'outre-sommeil, assourdissant nos cantiques par effraction, étouffant nos récitatifs à rebours des nuits, ou un contrepoint d'éclairs et d'abîmes, l'harmonie sous les pierres. Maintenant évanoui, ce rituel, en symphonie d'ombre, tornade et silence, dans l'escalier bruissant du reflux, vous entendiez encore le regard à flot mourir des heures transparentes. Vous n'aviez pas aimé ce sang à contre-langue, éclat d'une matière soluble à l'infini, lumière trop décantée. J'ai serré les dents, refermé le poème sur la cendre et la poussière, repris mon chemin à temps égaré.
J'ai signalé combien la musique avait d'importance pour moi et j'ai même tenté, par des poèmes plus ou moins réussis, à évoquer la musique par les mots du poème. Ce texte précis-là, en fait, se rattache à un souvenir musical très fixé. Il se rattache à un concert où Charles Busch avait dirigé le Requiem de Berlioz. Ce devait être en 1963. Vous voyez, donc un souvenir très ancien, donc lié au souvenir de Florence Ophélie, et qui se trouve donc dans ce texte. Voilà. Un autre poème des Lettres d'Elseneur. Cette nuit, j'ai rêvé d'autres nuits, d'autres jours à renouer. Dans la masse endolorie des heures, s'ouvraient perspectives, poches d'ombre et portes dérobées. L'instant portait au jambage, à l'innommé, toutes amarres rompues. Par des mots haletants, les lèvres au bord de l'infini, je renflouais la mémoire. J'allais enfin vous entrevoir, éveilleuse soudaine de vos magies si longtemps englouties. À peine extrait d'un sommeil pesant, sous les cendres, sous la poussière du temps, je vous entendais. Voix d'entre les eaux, vous filiez récits de vents nocturnes, fables et dictons pour caresser le silence, écrit sous l'orage, et comme un havre, esquif inquiet à l'ancre, ces cantiques éperdus, au mi-temps d'une âme ardente. Au chevet, notre lampe enchantait une voûte obscure. Vous cherchiez des yeux le premier bleu de l'aube. Je touchais au ventre de la nuit, au delta, à vos féeries secrètes. Tandis qu'à mon couvert, l'onde psalmodiait un double poème sous nos vies entrelacées. Et voici maintenant le 20e et dernier poème des Lettres d'Elseneur. Autour de notre dilection radieuse, un monde gelé. C'était le temps de dynasties à basse tension, de campements et remparts sans lumière. Jeunes, émerveillés, nous avions d'emblée frôlé une ardeur insaisissable. Dans la fureur de mots indomptés, je m'acharnais à donner voix à tel matin en amont du désir, comme au hasard tout magnétique de rares déchirures dans la nuit. Celle-ci, féline, s'agriffait parfois au rideau de l'insomnie. Je traquais l'obscur, hantais la profondeur et buvais votre clarté. Vous étiez l'éclair premier, assomption à vivre au plus près d'une langue d'eau pure. Mais, fouisseur d'images aux injonctions rebelles et de troubles aspérités dans la matière et l'exercice du poème, je tournais le dos à toute vie rampante. Vous avez traversé le miroir des eaux, tisser le proche avec le lointain. Le temps s'est écarté de nous. Je vous rêve, je vous éveille.
Thank you.
précédemment se terminait par une évocation du rêve. C'était en fait un peu une prémonition de ce que j'allais entreprendre quelques années après, où dans l'ensemble qui s'appelle « Fragments nocturnes pour une chanson d'aube », tente de pousser le plus loin possible ce que les surréalistes avaient déjà tenté, d'écrire en fait des textes oniriques, des textes qui... Mais je voulais le faire de façon à éviter une simple transcription poétique, entre guillemets, d'un rêve qui aurait été noté, et d'obtenir dans l'écriture même la nature onirique du poème. Voilà, donc c'est une tentative qui est à mi-chemin entre le récit de rêve et ces expériences de rêve éveillé que pratiquaient aussi les surréalistes dans les années 20. Là, il s'agit donc d'une expérience toute personnelle, d'écriture qui se laisse aller, je ne vais pas dire qu'il se laisse guider, mais qui se laisse vraiment aller à toutes les fantaisies de l'imagination. Voici le premier de ces fragments nocturnes. Elle souriait entre deux éclipses. Le bal des silences allait se dissoudre de fenêtre en fenêtre. La nuit, fardée de ses brumes d'arrière-saison, était rentrée dans son miroir. Passée par effraction sous les mots, j'étais seul à pouvoir déchiffrer ces taches d'encre sous une portée criblée de doubles croches. La mer se retirait, dévêtue de son écume harmonique, découvrant peu à peu un parquet luisant et le souvenir de Forlan ondulant à mi-voix sous les lustres. Je me remémorais alors un ancien roman à clé, interrompu dès le premier dialogue avec un répondeur sans ombre. Je relisais des pages à la noirceur elliptique où poèmes et notules glissaient d'insolubles rébus, quelques fictions à rebours. De tout ce brouillon engourdi par le temps, ne reste que le réseau très lâche d'instantané en noir et blanc. Horizon sous la pluie, monologues au bord du sommeil, inventaire en trompe-l'œil. Pourtant, je vivais tout entier de ses seuls yeux. Ses cheveux aimantaient vocables et visions à la pointe du poème. Elle était le feu et la parole, l'être à fleur de peau, l'âme à vif. Alors voici un deuxième exemple de ces poèmes oniriques qui lui en fait a été déclenché par un très réel rêve éveillé, un de ces moments qu'on peut vivre par chance, en quelque sorte, où les choses se présentent de façon tout à fait inhabituelle, comme si on était dans un rêve. Et donc je l'ai vécu, et c'est le lendemain même que je crois que j'ai écrit ce texte, tout imprégné des sensations étranges de ce rêve éveillé. Un simple déclic depuis le pont, fouetté par trop d'images glissantes, en rafale hors langue, je devinais mon chemin, des saignées, des fissures nocturnes dans chaque ruelle, d'anciennes plaies sur les murs, les empreintes de tant de saisons brûlées. L'île, photographiée, vibrait sous hypnose. incrustée de ces pierres magnétiques. Je gravis les degrés déjà noircis, découvris en plein silence les arcades oubliées. Le vaisseau respirait à peine, arche à l'abandon, quelques égarés somnolaient sous la voûte. Amaigris, la dernière flamme s'épuisait devant des yeux morts. Quand l'orgue remua dans l'ombre, j'entrevis l'enfant, celle qu'elle avait été dans cette nef accostée au bord de la nuit. L'enfant qui allait de l'onde intuitive au vitrail écorché, cueilleuse, émerveillée par la lumière et les murmures. Elle me prit la main. Devant nous, le grand portail ouvert. Château dissous, chambre au secret. Comme je tournais les yeux vers le fleuve, elle disparut.
Elle est partie sans un mot. L'orchestre achevait de se dissoudre en symphonie involutive. Le rideau a replié ses ailes sur le silence et la poussière. Je suis resté devant du brouillon hasardeux, d'anciennes élégies fermées à double tour, quelques cartes muettes, un écran aux lendemains enneigés. Le temps, émondé de l'intérieur, ne respirait plus. Alentour, les chambres d'hôtes semblaient désertées. L'ascenseur, muet à tous les étages, m'a ouvert le chemin, encore suivi par les ombres, à la périphérie de cette cité engourdie dans l'oubli de ses veilleurs. Une lumière vacillante au bord de la rue m'a fait signe. Je suis entré. La boutique regorge de vieux volumes, manuscrits, documents, coupures de journaux. J'ai feuilleté longuement les répertoires, les annuaires périmés, carnet d'adresses, notices nécrologiques, photographies mondaines sur papier glacé. Aucun indice sur sa disparition. J'ai ouvert un abrégé de l'absence, confronté l'avers et l'envers de chacun des mots qui me manquent, me permettrait, au mieux, d'apostropher le vide. À l'aube, plus rien que ces images d'un mauvais rêve.
Alors, j'ai voulu, dans une période plus récente, ajouter une expérience qui manquait dans cette correspondance, c'est de faire entendre la voix de Philippe. Et donc, dans ce qui s'appelle maintenant un roman pour Ophélie, j'ai glissé quelques poèmes qui peuvent se présenter sous la forme de chansons d'Ophélie. Et Colette va nous lire l'une d'elles.
Comme un songe à bout portant, sous les caresses éperdues de ces eaux vives, je file un parfait sommeil sans retour. Je nage, mais de désespoir. J'essore une lumière noire, autant de trilles qui dégoûtaient d'un plafond taché de sang, de poison secret. Je plonge et creuse l'obscur. Aux arcanes du couchant, j'oppose la fleur et le feu de ma chevelure, le lien d'une âme sans ombre. Je serai dès le soir ton devenir, ton poème à revivre à pleine bouche, un sursaut d'être. La mort chante sous mes paupières, écoute-la replier mes ailes aux rives prochaines de notre double folie.
Parmi les poèmes oniriques des fragments nocturnes, il y en a un très particulier qui résulte d'un rêve bien réellement vécu où apparaissait la figure de Florence au fil. Et ça a donné très vite ce poème que voici. Pour avoir décrypté en un éclair l'enseigne de ce café bruissant de nos blessures oubliées, je ne doutais plus de ma bonne fortune. J'allais la revoir. La rame dernière du métro m'avait déposé sur le quai à l'heure du métamorphose. Vague après vague, un flot d'égaré viendrait saper les hauts remparts de la nuit. Parvenu enfin à l'air libre, j'avais ouvert la porte et retourné le sablier. Le temps allait amorcer son reflux. Dans la salle en trompe-l'œil, au passé enfumé, alcool et autres poisons de l'ombre tournoyaient devant des tables vides et quelques miroirs sans lendemain. Depuis le seuil, je la vis. Elle souriait, esselée sur la moleskine. Nous bûmes ensemble, lèvres jointes. Le vin était âpre, comme voilé d'absence. Elle ouvrit son sac. Ce fut l'envol. Un éblouissement, une brassée de fleurs séchées, papillons nocturnes, lacunaires éphémérides, plumes ocellées. Derrière elle, dans la glace déjà gaillée à l'aube, un orage couvait sous les cendres. Je cherchais des yeux quelques points de fuite, l'oméga de l'ombre, alors que des rayons filtraient dans mon dos. Lignes parallèles toujours à distance, un infini sans preuve, l'horizon englouti. Quand je me suis retourné, elle n'était plus là, et le café s'embrumait, silencieuse et désert. Ce poème, effectivement, est lié à un rêve, et dans ce rêve, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup intrigué tout de suite, dont je n'avais pas trouvé l'explication. C'est que on voyait l'enseigne, c'est ce qui est évoqué au début, l'enseigne Café 20 grammes. Bon, je ne voyais pas du tout à quoi se rattachait ce Café 20 grammes. Et en fait, il y avait un souvenir bien réel. C'est tout simplement que derrière le Café 20 grammes, il y avait la salle 20 grammes. Et la salle 20 grammes, aujourd'hui beaucoup utilisée comme salle de concert, elle l'a été aussi dans le passé, la salle de Wagram était en fait occupée de temps en temps par la faculté des sciences Jussieu, qui avait des problèmes de logement, et donc pour faire passer des examens, la salle de Wagram était réquisitionnée en quelque sorte. Et nous avions, Florence et moi, passé un examen ensemble dans cette salle. C'était ça qui était derrière le Café Wagram. Voilà. Comme quoi, les rêves, effectivement, disent des choses très précises. C'est jamais gratuit. Colette, l'autre pièce, celle qui était numéro 1. Je suis la lointaine.
Je suis la lointaine, l'esselée, l'absente de tous les matins. Les portes s'ouvrent devant moi à contre-nuit. J'effleure chaque miroir, j'y respire une autre lumière. tandis que tu cheminais entre les mots, prince de l'insoluble, je cueillais les derniers fruits du temps, traversais de longs silences, composais un bouquet de voyelles pour enchanter quelques nuits trop basses. Mes robes et regards peu à peu se rident, comme se replie le ciel au crépuscule pour mieux filtrer des clartés diffuses, des étoiles perdues, à déchiffrer de l'index les cicatrices, les failles du promontoire rongées par le sel. J'ai lu et relu, levé dans une ombre d'une nef dévastée, tes lettres d'abîme. J'ai pâli à distance. Écoute-moi. J'efface jusqu'au délier de ma mémoire sèche avant de passer de l'autre côté dans l'inaudible. Les rivières me porteront à l'infini. Je regarde la mort buveuse de fond gravée en sous-verre.
Vous avez sans doute remarqué que ces poèmes sont très souvent marqués par des images maritimes. Bon, c'est pas un hasard, c'est parce que je passe en fait tous mes étés régulièrement au bord de la Gironde, à Méché précisément. Et Méché, dont le nom à l'époque gallo-romaine était Mescaria, qui signifie mauvaise pierre, on va le retrouver directement évoqué dans ce poème. Onirique également, par son écriture très spontanée, que voici. J'écris à Ophélie, j'écris dans ce pays de pierres mauvaises, de sable et d'oubli, où s'enracinent le feu et l'absence. À nuit éperdue, j'écris. Les mots sous ma main fraient leur chemin parmi des broussailles sèches par trop de mémoire. J'écris au bord de l'estuaire, devant les eaux mêlées du fleuve et du lointain. Les yeux clos, j'écoute. Le firmament écrit aux franges du sommeil, dans le lit défait des ombres. J'écris à l'infini, à la mort qui rampe sous nos jours, à la vie ouverte à l'aube. Une lettre. Du bout des lèvres, à bout de force, bouquet de mots, bouteille à la mer, j'écris à la folie. Ce poème, je le signale en passant, vient d'être mis en musique par le compositeur Jean-Claude Wolff et devrait être éclairé au mois de septembre prochain. Vous voyez que mes collaborations musicales sont effectivement nombreuses. Plusieurs compositeurs m'ont mis en musique, Jean-Louis Petit, Aubert Lemelin, et donc plus récemment Jean-Claude Wolff. Sans compter les collaborations musicales avec notre ami François Veillant. Alors, je vais vous lire maintenant le tout dernier de ces fragments nocturnes, qui a aussi une dimension musicale et autre en même temps. J'ai écrit ce poème tout imprégné de la musique de Schubert. J'avais entendu l'un de ses quatuors, probablement La jeune fille à la mort, ou le 15e quatuor qui est aussi admirable, et j'avais envie d'évoquer quelque chose qui se rapporte à l'esprit de Schubert dans ses dernières œuvres, dans le Winterreise, etc. Et coïncidence étrange, ce jour-là, comme cela arrivait souvent, le téléphone sonne, je décroche, et j'entends rien du tout d'abord, puis une voix qui dit « Goodbye ». Peut-être avez-vous profité de ce genre d'exercice, ça fonctionne souvent. Alors, ce double... Cette coïncidence entre la musique de Schubert et l'évocation d'un hiver et ce goodbye se retrouve dans le dernier poème. Le téléphone au plus profond de la nuit, s'est enflammée, battant des ailes. J'ai bondi sur la boule noire, lourde, d'un silence gelé jusqu'aux racines. Strident, un froid vif a vrillé mon tympan. Goodbye, souit la voix, pâle, et comme passée de l'autre côté du temps. Serrant le col de mon manteau, je me précipite au dehors. La neige est tendue à l'extrême sur la lande, où se distille l'ultime poison pour l'oubli et la mort blanche et noire. La forêt ne se traverse qu'à paupières tremblantes. Je devine enfin le fleuve à demi figé dans son sommeil crissant d'étoiles. Je la vois, elle, étendue sur la rive, mains jointes, cheveux à la dérive, œil bleu à travers buissons et ronces, un appel à livres fermés, à fleurs d'aube. Dans une période plus récente, je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure, j'ai tenté en fait de rassembler ces diverses expériences d'écriture, écriture-correspondance, à tous les sens d'ailleurs de ce double mot, et aussi poèmes oniriques et tout ce qui pouvait se trouver aussi dans des textes antérieurs pour former quelque chose qui pourrait s'appeler un roman pour Ophélie. Alors, un roman, c'est la... il s'agit ici de quelque chose qui est très loin du roman, aussi bien du roman à succès que du roman, roman de gare, tout ce que vous voulez. Non, simplement une réinvention, en fait, de l'image d'Ophélie à travers toutes ces années en fait d'absence, puisque en fait je ne l'ai pas revue depuis tout simplement 1967. Bien, donc voici un exemple de des poèmes que j'ai écrit pour ce roman pour Ophélie qui à ce jour est toujours inédit. À vivre ruisselant de mémoire, du seul éclat de votre visage, je peine aujourd'hui à dénombrer des années, nos années les plus profondes. Ni passé, ni présent, le temps n'a pas prise sur ce portrait. Je le regarde et sens se ranimer spontané le feu qui embrasait nos incursions dans l'illisible. Dans l'illisible revers d'une langue secrète. Dans cette harmonie, la nôtre, qui enveloppait de nuit toute nuée d'éclairs. Au cœur du silence qui entoure ce tracé si ancien, je ne puis m'expliquer comment, crayon en main, en quelques gestes furtifs, j'ai pu instiller tant d'exactitude et de ferveur à votre image, qui a l'évidence d'un cliché photographique. Rondeur des joues, délicatesse du nez, galbe d'un front aimanté par l'inquiétude, lèvres confidentes, sourcils en attente et sous le roulis des cheveux, quelques lointains d'étoiles. Perles au fond de vos yeux. Je vous vois présente, première, vive à jamais au fil de mes jours, de mes nuits. Je vous dévisage avec ardeur. Donc là, la forme est celle d'une lettre, à nouveau, mais d'une lettre qui a la particularité d'évoquer un portrait réalisé il y a très longtemps, et donc là un rapport direct avec une image, un souvenir. Aussi un autre exemple de ce qu'on lit dans un roman profil. Je vous dois tant de matins inespérés, aux ailes déployées, mille dérives sans fin, sur le fil de confidence à lèvres closes, des rêves de nuits arborescentes, des féeries à contre-jour, autant de poèmes à perdre haleine. Souvenez-vous, alors que dans l'ombre, j'imaginais un feu à mots écorchés, nous allions ensemble, sous la même clarté blafarde, de couloir en couloir, consulter l'oracle en quelque laboratoire de hasard. Et vous m'offriez la solitude d'un regard. Je vous dois ce surcroît d'être, cet envol, comme une brûlure au plus secret de nos silences complices. Vous teniez dans votre main ma souterraine rudesse, écartant l'aigreur d'un verbe trop acide. Vous étiez l'éveilleuse d'une douceur profonde, où retrempait telle image mal sertie dans le feuillage de l'aube. Je vous dois cette chanson à mi-voix. Une nouvelle lettre à Ophélie. Lettre d'Ophélie.
Plus aveugle, nuage défiloché, de toute sa folie la nuit m'emporte. Elle m'enveloppe de ses robes à double envol. De draps crépitants, d'éclairs de chaleur, je flotte, échevelé, de tourbillons sans fin en trouble nappe d'insomnie. La nuit me déchire, me caresse. Plongé dans une clarté lunaire, je chante à voix secrète, émiettant du bout des doigts les derniers fruits d'astres errants. Songe à celle que tu cherchais à pleine langue, lacérant l'invisible d'une écriture anguleuse. Songe à mes rivières à fleurs d'oubli. Songe à moi, aimantée par la peur. Écoute les blessures de mon chant au loin. Tu seras, à l'instant du réveil, livré à la horde des mots, aux fractures de ta mémoire. Je serai lumière perdue. Mon absence sera douce et la mort soluble dans la nuit.
Alors, dans le roman pour Ophélie, on retrouve un texte d'inspiration schubertienne, on peut dire, et on trouve aussi un texte inspiré par Debussy directement, qui lui emprunte directement son titre, Des pas sur la neige. Des pas sur la neige, j'écoute ce son lointain, comme aspiré par le silence. C'est un murmure ouaté, audible au plus froid de la nuit, mais aussi le halo autour d'un visage perdu qui s'ovalise sous mes yeux. Des pas sans lendemain, sur des chemins à la sourde blancheur, sous la neige en suspens, aucun repère, nul horizon. Il n'y a rien derrière ces flocons sonores, insinuants et glacés, qui vrillent mon oreille engourdie. Musique d'absence, du repli sur soi, les touches du clavier égrènent à l'infini ce lent ressassement. Je cherche à tâtons quelques traces. Je suis les empreintes de pas sans relief. De sa présence évanouie, que reste-t-il? Chambre ouverte à tous les vents de l'oubli, livre muet dans l'ombre, miroir sans feu, sans regard, lit échoué sur les hauts fonds du temps. J'écoute, j'entends la neige. Et voici maintenant un poème qui, lui, s'inspire de Messiaen, d'Olivier Messiaen, et précisément de ces cinq rechants que j'avais entendus la première fois en 1960, qui m'a marqué durablement. Nous brûlions de même étoile. Une nuit magnétique avait passé la main sur le fleuve ensommeillé. Miroir au fond des yeux, nous tournions des heures à voile franche. Depuis notre roulis nocturne jusqu'aux premières flaps, premières fissures d'une aube naissante, nous avons aiguisé chaque instant et l'alcool infini aux lèvres de l'âme entre caresses à mi-voix et rechant échevelé. Psalmodié d'une paume fervente, la lumière gagnait chaque degré de nos corps éblouis. Et la nuit allait se froisser, s'unir aux dernières ombres du silence, vivre encore des promesses prodiguées par sa robe, maintenant lacérée. Donc, Voici maintenant un poème donc, qui se rapporte au Winterreise de Schubert. Nuit contre nuit se dissout le temps. Ce n'est plus entre sommeil et désenchantement. Dernier soubresaut d'une mémoire crispée. Ni reflux, par la grâce de votre regard, de certains jours anciens, redevenus habitables. Ce sont des échappées nocturnes dans la folie de la neige, des courses aveugles contre un sang glacial. Je rêve, Ophélie, à flamber haute, dans l'obscur murmurant ou mêlé à un brouillard sans fin. Au bout de la langue, je rêve encore, parcourant les contrées les plus secrètes de votre absence. Vous hantez chaque paysage que je traverse dans sa blancheur inachevée. Je franchis avec votre ombre des fleuves aux contorsions de flammes saisies par le gel. Nous déchiffrons ensemble tout cet hiver en lambeaux, levé au cœur de la nuit bonne à boire, avec ses flocons et ses étoiles mortes. De tout rêve avec vous, Ophélie, je baise vos paupières.
On va peut-être achever assez rapidement.
J'ai froid. Ma voix se perd dans les perspectives brisées d'un miroir éteint. Je ne reconnais plus tant s'y mêlent herbes couleur sang et lignes torses de l'oubli. Le lumineux courant qui portait chaque matin mon élan vers notre ailleurs. Silencieux prince, ma vie ne chante plus qu'à paroles voilées, devant un décor en trompe-l'œil, un feu à rebours. Ne me cherche plus que sur ton fil d'encre. Absente à tout chiffre d'appel, je chanterai à ton oreille seule, entre deux brassées de silence. Fleur d'éveil autant que veillée d'âme, à vivre du bout des lèvres.
Alors, on va terminer un dernier texte pour pouvoir ensuite faire une petite signature pour ceux qui désirent se procurer un des livres. Et puis écouter un morceau de flûte, bien sûr.
On fait maintenant. Merci à François Veillant donc, qui a intercalé dans ce parcours poétique de la figure d'Ophélie des pages connues ou beaucoup moins connues du XXe siècle pour la flûte seule, depuis Syrinx de Debussy que nous avions au début, jusqu'à Densité 21.5 de Varèse qui vient de terminer, en passant par deux pièces d'Edouard Michael, du rite de la lune, c'est bien ça, et d'André Jolivet, Incantation. Voilà, merci. Et merci, merci à Colette. Merci à Colette. Merci à Jean-François.
Et donc... qui a un chapeau? C'est bien. C'était pour ce qu'on va voir à la SACEM, qui est exceptionnel pour nous. Et ce sont des auteurs...
Enfin, anciennes, un peu anciennes.
Contemporaines du 20e et du 21e.
Mais il y a encore des héritiers.
Voilà. Mais elles ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Et il y a une contribution qui n'est pas si négligeable. Donc merci d'y contribuer, si vous êtes d'accord. Et Michel, merci beaucoup pour cette lecture d'Ophélie, ses explications, l'œuvre de toute une vie. Et j'aimerais quand même savoir si certains d'entre vous, je suis sûre que certains d'entre vous ont des questions à poser. On a peu de temps, mais quand même pour une ou deux ou trois questions. Et puis ensuite, il y a pour les livres, si vous voulez acheter les livres de Michel. En tout cas, merci encore Michel pour cette belle lecture.
Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de pouvoir faire un parcours aussi complet que possible d'une matière assez vaste.
Vaste et néanmoins d'une fidélité poignante. Des questions? Oui, Mireille.
Je voulais demander les poèmes en forme de lettres que vous avez lus. Est-ce que ça constitue des vieilles lettres envoyées?
Aucune de ces lettres n'a été envoyée. C'est très simple. Pour la bonne raison que il y avait un manque d'adresse. Total.
Oui, c'est ça qui fait le caractère si poignant de cette œuvre.
C'est par rapport à la publication, bon, il n'y a aucun problème dans vos œuvres même, mais par rapport à la publication, utiliser des lettres qu'on a envoyées, c'est facile maintenant, parce que souvent on les enregistre, pas. Utiliser des lettres qu'on a données finalement, pour les publier ensuite, c'est trop une démarche un peu dérangeante. Et c'est pas votre...
Qu'est-ce qui est dérangeant? Excusez-moi, je n'ai pas très bien saisi.
Si vous aviez envoyé ces lettres, vous les auriez données à la personne.
Oui.
En les publiant, vous les reprenez en quelque sorte. Mais c'est pas votre problème vraiment, c'est au cas où.
C'est surtout la proclamation d'un amour inextinguible. Hein. Est-ce que, moi je voudrais vous demander, Michel, si vous revendiquiez aussi l'amour courtois.
Absolument, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est pas pour rien que je fréquente le sud-ouest tous mes étés et je suis passé souvent à la ville de Séblaï, qui s'appelle comme ça, où avait séjourné le célèbre poète occitan de l'amour de loin.
L'amour de loin, voilà, l'amour de loin. La fidélité à la dame. Une dernière question ?
Non, moi je voudrais faire une remarque, tout simplement dire que le passage sur le portrait, la lecture et la mise en perspective dans la notion de poème en roman, j'ai particulièrement apprécié cette coupure. Et j'ai trouvé ce passage émouvant et techniquement très intéressant. Merci.
Oui, cela passe sur un dessin bien réel. Quelqu'un possède des copies de ce portrait. Mais effectivement, ça a été l'une des sources possibles pour le roman pour Ophélie.
C'est la filiation de Dante, un peu.
Pardon ?
La filiation de Dante avec l'amour de Béatrice, c'est toujours.
Comment ça ?
La filiation de Dante est avec Béatrice, non, c'est pas ça?
Ah oui, oui, oui. Si
on veut dire, le premier, c'est lui, quoi.
Non, c'est peut-être pas le premier. Hein.
Non, mais enfin,
c'est éternel.
Développé.
Hein.
Non,
c'est éternel,
développé.
Hein, comme
c'est développé. Avant, Dante, c'est...
Maintenant, je vais faire le trouble fait, excusez-moi, mais comme il faut absolument qu'on libère la salle à 18h, je voudrais vous demander de venir, pour ceux qui désirent, pour la signature, et puis...